Starting a business means you had to be a businessman. A Tom, a Dick, a Harry, or not. If women started and grew businesses at the same rate as men, they would contribute an extra £250 billion to the UK economy. That's why at NatWest, our new funding platform, Back Her Business, is helping more women to get started. So you can get started too, whatever your name happens to be. Search NatWest Rethinking Business. NatWest. We are what we do.
UK residents with new UK projects can apply. Specific criteria apply. 2019 Rose Review claim equal to 4 years natural GVA growth.
Vous écoutez
RMC.
Forcément qu'il y aura des priorités, mais ça ne veut pas dire que la dernière des priorités sera une priorité aussi.
RMC.
Comprenez ce que je veux dire?
Je vous entends parler, je vous entends écrire.
C'est intéressant d'avoir plusieurs arcs à son flèche, donc c'est bien.
Jusqu'à minuit, c'est l'Afterfoot.
Nicolas Jamain.
Bonsoir à toutes et à tous. L'After est là comme tous les soirs, jusqu'à minuit, à la radio sur RMC, à la télé sur RMC Sport News. L'After, la seule émission en France, en direct, 7 jours sur 7, tous les jours de l'année. Casting du soir, bonsoir, Kevin Diaz.
Bonsoir, bonsoir à tous.
Heureux de t'accueillir, tu as eu la chance de vivre ce match en direct sur RMC.
Ouais.
Cette victoire de l'équipe de France, 2-1 face à la Moldavie. Salut Daniel Riolo.
Bonsoir les amis.
Appelez-nous supporters français, la France est qualifiée pour l'Euro 2020, c'est l'info de la soirée, la France est première de son groupe, c'est l'autre info de la soirée, première place à confirmer dimanche en Albanie bien sûr, il faudra s'imposer, ça peut avoir son importance, on vous dira pourquoi, à quelques jours du tirage au sort en Roumanie, l'équipe de France qualifiée, le débrief du match, l'évaluation bien sûr, Cador, pied carré, on fera le tour, on parlera d'Olivier Giroud bien sûr, et puis... Pourquoi pas Kylian Mbappé, comment vous les trouvez? Appelez-nous 32-16, supporters français. Et les autres matchs, la qualification de l'Angleterre, le premier but de Tammy Abraham, sous le maillot de l'équipe d'Angleterre. Enfin bref, beaucoup de choses. Il est possible qu'on parle de Roger Federer également. Mais d'abord les trois points.
Bah, c'était l'événement du soir.
Les trois points.
C'est l'essentiel. Hein.
Le plus important, c'est les trois points.
Et souvent, l'essentiel, c'est le plus important.
Allez, Daniel.
Ah, on n'a pas, ça marche pas, il y a un truc qui est cassé.
Je suis pas, c'est parti ici, le jingle, t'as
pas
entendu?
Ah, on n'a pas le retour.
C'est un peu faible en fait, on n'a pas le retour en studio.
C'est faible, c'est carrément inexistant. Bon, la victoire laborieuse, le point 2, le déchet technique, très important ce soir. On pourra également parler, pour une fois, d'un schéma audacieux, mais qui n'a pas du tout porté ses fruits, quoi. 4 joueurs offensifs pour voir ça. Et le troisième point, nos deux individualités fortes, qui à mon sens sont pas dans la meilleure période de leur vie, Griezmann et Mbappé. Voilà, ça c'est pas mon troisième point. Ça fait trois déjà, Nico.
Kevin, parfait.
Bah moi, forcément, pour avoir suivi ce match très attentivement, c'était quand même quelle tristesse pour mon premier point, parce que le niveau de jeu ce soir face à cette modeste équipe de Moldavie était quand même abyssale. Et j'ai envie d'avoir comme deuxième point, alors pas forcément jeudi noir de l'after, mais on va dire jeudi bleu marine, parce que vraiment c'était quand même assez triste. Et en troisième point, j'ai envie quand même de parler des adversaires de l'équipe de France à l'Euro, puisque maintenant qu'on est qualifié, attention quand même, parce que l'Angleterre avec un très très haut niveau, aussi face à une équipe faible mais qui marque quand même 7 buts, le Portugal qui est pas encore complètement qualifié mais qui marque 6 buts face à la Lituanie, etc., etc. Il va falloir remonter notre niveau.
Voilà pour les trois points de Daniel et Kevin qu'on va développer jusqu'à minuit, bien sûr. Beaucoup de réactions déjà sur l'application RMC Sport Direct Studio. Est-ce que quelqu'un arrive à regarder un match de l'équipe de France sans se faire? Voilà. Voilà. Une honte absolue cette rencontre, style de jeu inexistant, comme d'habitude. Bon, une comparaison Giroud vs Abraham, mais dans ça, le jeu, ça n'a rien
ça,
à voir.
Moi je
comprends
pas.
Mais sauf que le constat est pareil.
Moi, je comprends pas ces remarques, moi. Moi, je comprends pas ces remarques. Bah, parce que moi, pendant la Coupe du Monde, 90% des, même plus, étaient absolument heureux. Ce que évidemment, je comprends. On n'avait absolument pas le droit d'évoquer le niveau de jeu, pas le droit, Deschamps ne veut pas qu'on en parle et tout. Tu vois, il faut être un petit peu cohérent. Tu te fais chier là quand tu regardes les Bleus? Ben ouais, mais de toute façon, sous Deschamps, c'est toujours fait chier quand on regarde les Bleus. Donc, quand tu es supporter des Bleus, soit tu attends la compétition, l'Euro, parce que tu sais que tu peux la gagner, parce qu'avec Deschamps, tu peux la gagner.
Tu peux la gagner comme ça.
Et puis, il va remettre... Non. Il remettra trois milieux défensifs.
Ah oui.
Il enlèvera un joueur offensif. On sait très bien comment ça va se passer. Ce sera pas beau, mais tu pourras gagner. Mais la très grande majorité des supporters des Bleus m'ont insulté pendant un mois quand j'ai dit que c'était le plus moche champion du monde de l'histoire, ce qui est vrai, et j'insiste, et je maintiens, je ne changerai jamais d'avis là-dessus. Mais peu importe après tout, puisque de toute façon les Bleus ont montré qu'ils pouvaient gagner comme ça. Donc il faut pas se plaindre.
On a quand même un peu le droit de se plaindre, Daniel. Nous.
Bah, pas ceux qui se sont réjouis de la façon dont les Bleus ont gagné la Coupe.
Ça, on est d'accord. On peut pas, comme dit Daniel.
Tu sais très bien que de toute façon, tu peux le faire d'être champion comme ça et de gagner l'Euro comme ça.
On peut pas se plaindre.
Après vous être amusé pendant la Coupe du Monde.
Voilà. Alors, on sait qu'on va s'amuser en tant que supporter de l'équipe de France neutre, pas consultant, pas analyste ou pas journaliste, mais on sait qu'on va s'amuser si la France gagne. Je dis bien si la France gagne. Parce que ils ont quand même pas gagné les trois dernières coupes du monde.
La joie ne viendra que de la coupe soulevée dans les bras du capitaine.
Là où voilà les matchs quand même spectaculaires contre l'Argentine, bon un peu moins contre l'Uruguay,
juste l'Argentine.
Voilà, contre l'Argentine. Mais bon, une victoire contre la Belgique, ça fait toujours plaisir de battre nos voisins belges. Donc on va dire qu'il y a de l'euphorie.
Tout en coupe du monde, c'est plaisir.
Lorsque
fera plaisir à l'Euro. Donc ne vous plaignez pas pendant les matchs de qualif. Les Bleus vont pas être panache au mois de novembre pour être moche au printemps.
On est d'accord. Donc nous, on a quand même le droit de dire que le niveau de cette équipe de France, surtout face à un bloc bas très regroupé, face à des adversaires certes faibles, mais qui sont quand même, comme j'ai dit pendant le match, tous des joueurs de première division. Même si en France, on sait qu'on dénigre souvent, notamment le jeudi soir, avant de voir les résultats, on dénigre telle ou telle compétition. Mais dans cette équipe, il y a des titulaires en D1, roumaine, il y a des titulaires en D1 italienne, en D1 néerlandaise. Donc
la Moldavie, excuse-moi.
Non, mais peu importe, c'est des joueurs.
Petit pays de football, on a l'impression que c'est une aventure de Tintin, quoi. Non,
mais on est d'accord, Daniel, mais je dis juste que l'équipe de France, face à ce genre d'équipe qui sont
un peu plus loin, on dirait presque un pays qui n'existe pas comme ça, mais il existe évidemment.
Oui, non, bien sûr.
Qui s'est placé la Moldavie sur la carte d'Europe? Il met une carte d'Europe vierge.
Si, on sait où c'est.
Tu le mets, toi?
Oui, quand même, mais fait bien bon. Il n'empêche que.
C'est quelle langue il parle?
Non, mais d'un point de vue du. Le roumain. Ouais. Mais d'un point de vue du football.
D'ailleurs, tu vas traduire la conf tout à l'heure.
D'un point de vue du foot, oui, ça n'existe pas.
On a dit pendant le match, attention Daniel, on a dit pendant le match que Saint-Etienne a été faire match nul il y a quelques années face à une équipe moldave en Coupe d'Europe.
Ça, c'est nos équipes de clubs.
Tu sais, ce soir, pendant un moment, j'ai cru voir un match de Ligue 1. Voilà, une équipe qui certes avait la domination, avait la possession du ballon.
Un mauvais match de Ligue 1 alors.
Oui, un très mauvais match de Ligue 1, ou un match du Lyon de Genesio où son équipe dominait l'adversaire mais n'arrivait pas à trouver vraiment les automatismes ou les cheminements préférentiels qui seraient reconnaissables et qui permettraient de se créer 2-3 occasions par mi-temps de la même façon et avec la même trame footballistique.
Au 32-16, ça appelle énormément, bien sûr, après cette victoire et qualification de l'équipe de France. Et à l'heure, on donnera tous les qualifiés, bien sûr, déjà pour l'Euro 2020. Ils sont 3 et 3, 6, 9 ce soir. Dernière journée dimanche. On parlera du Portugal également. Hein. Portugal qui va jouer sa qualif dimanche. Ce sera à suivre à partir de 15h. Salut Serge.
Salut tout le monde.
Et bienvenue dans l'after. Daniel, t'écoutes. Kevin également.
Ouais, alors moi, je voulais revenir un peu sur le cas Mbappé.
Tu veux déjà faire un cas individuel alors?
Pardon?
Tu veux déjà faire un cas individuel?
Ouais, non, enfin non. Toute l'équipe a été moyenne et mauvaise. Et puis en fait, je te rejoins sur le plus mauvais champion du monde qui a existé depuis que la Terre existe. C'était l'équipe de France en 2018. Ouais, je vais faire un cas individuel parce que c'est un joueur qu'on a monté au Pinacle, qui est dans les 3 meilleurs joueurs du monde, ou dans les 4, 5. Et c'est un joueur de statistiques, c'est-à-dire qu'il joue pour sa gueule. Et en fait, ça me saoule.
Est-ce que tu peux me redire pourquoi il joue, s'il te plaît?
Ça me rappelle Pascal Duprat quand il dit gueule.
Pour
tu sais,
ses
là.
Stats. Il joue pour ses stats.
Oui, mais quoi d'autre?
Non, mais il peut y rejouer. Vas-y, redis la phrase avant, s'il te plaît.
Il joue pour sa gueule.
Attends, on va la redécouper, on va te faire écouter après.
C'est la plus mauvaise équipe championne du monde.
Non,
de
dont tu as dit pour sa gueule. C'était, ouais, je
tu as dit, il joue pour sa Pascal Duprat. Je crois que tu l'as dit à la Pascal Duprat, vraiment.
Il joue pour sa gueule.
Voilà, c'est ça.
Il joue pour sa gueule.
Vas-y, développe. Parce que.
Je développe.
C'est fort, ton propos.
Une des dernières actions qu'il a faite, au lieu de faire une passe avec, je sais plus qui était à côté ou un petit peu en profondeur, il fait une putain de louche. Excusez-moi pour les mots.
Un peu d'élégance.
Il fait une louche pour lui-même. Enfin, ça dénote quelque part d'un truc. Enfin, j'arrive pas à comprendre. Alors, il a été blessé. Bon, il est moins en forme qu'il y a quelque temps. Mais quand c'est comme ça, en général, tu joues plus simple. Lui. Alors, plus il est fatigué, plus il joue pour lui. pour essayer de sauver la patrie ou sauver ses stats. En fait, j'en sais rien, mais c'est fatigant en fait à la fin, quoi.
Mais il y a deux choses, hein, de toute façon, avec Kylian Mbappé. Bien sûr que à chaque fois qu'on parle de Mbappé, on est obligé de rappeler que c'est un talent, comme tu l'as fait, et que c'est sûrement le meilleur joueur français, en tout cas pour les 5 ou 10 prochaines années. En tout cas, on l'espère pour lui et l'équipe de France.
Mais c'est voilà. Pour ça qu'on le défense plus aussi quand il joue pas.
Mais bien sûr, et c'est. Moi, j'en ai déjà parlé ici même, mais c'est Duga aussi qui en a parlé, je crois, il y a quelques semaines. Mais bien sûr que Kylian Mbappé a un côté où il se neymarise. Il se neymarise dans le sens où, bien sûr, qu'au contact de ce genre de joueur, de star mondial, c'est un joueur qui aime le foot, qui prend du plaisir en jouant au foot et qui veut en donner. Et des fois, peut-être un peu trop. Et sa jeunesse le rattrape. Plaisir, laisse-moi juste finir. Là. Sa jeunesse le rattrape, ouais. Au moment où, comme tu as dit, il perd un peu le sens des valeurs entre l'efficacité qu'il doit produire sur le terrain et le spectacle qu'il a envie de donner. Et voilà, cette starification du footballeur aujourd'hui qu'il faut que à chaque match on fasse un geste, on parle de lui.
Ouais.
Serge, vas-y.
Ouais.
Vas-y.
Non, je dis, on parle de lui, mais je m'en fous, moi, qu'on parle de lui. Moi, je veux qu'on parle
du match
de l'équipe de France. C'est pas une personne. Je veux dire, Zidane, Platini, peu importe, ils jouaient pour l'équipe. Je veux dire, on parlait d'eux, justement, parce qu'ils faisaient jouer l'équipe. C'est pas parce qu'ils avaient des stats de folie. Alors oui, il y a Messi, il y a Ronaldo, ouais. Donc maintenant, c'est la dictate des stats. Non, mais il y en a marre.
C'est la dictate du Ballon d'Or, ça s'appelle.
Ouais, c'est pareil, quoi. De toute façon, si tu es champion du monde et que tu as fait une belle performance en Ligue des Champions,
tu sais, c'est le. Ouais, mais tu sais, Serge, c'est le. Bon, je vais dire un truc un peu bateau, c'est le foot d'aujourd'hui, mais il y a énormément de joueurs qui raisonnent de cette façon. Tu peux ne pas aimer, je te comprends parfaitement.
Ah non, j'aime pas du tout.
Je te comprends complètement. Après, tu lis toutes les interviews de Cristiano Ronaldo. Depuis des années, il ne parle que de lui, que de ses stats. C'est une obsession absolue, tout comme le Ballon d'Or. Ça ne l'empêche pas, à côté, de faire gagner ses équipes, d'être un joueur extraordinaire. Donc, en fait, le modèle, le truc, c'est qu'il y a eu une sorte de modèle avec Messi, Ronaldo, qui a amené presque une déviation du football.
C'est sûr.
Ça a frappé les esprits et ça a peut-être fait dévier l'esprit d'autres joueurs, ces deux gars-là ont
dans
été
dans quel sens, Daniel?
Deux mecs-là ont été tellement hors du commun, c'est-à-dire d'être à la fois obsédés par leur personne, de ne penser qu'à eux, vraiment comme il disait, de réussir à ne penser qu'à leur gueule, mais tout en faisant gagner l'équipe et briller le collectif à côté, que forcément d'autres se sont dit pour briller les modèles c'est ceux-là. Est-ce que d'autres réussiront à les égaler? J'en sais rien, mais le modèle c'était du jamais vu, des mecs qui en fait se sont partagés les ballons d'or depuis
mais ça on le reverra sûrement pas en fait.
Maintenant.
C'est ça.
C'est-à-dire que depuis 2010, je crois que Mbappé 2009 même je crois.
2009 ça
pour
ça
moi 10 ballons d'or avec avant je crois. Vas-y.
Pour moi Ronaldo et Messi, c'est presque un centre de déformation pour tous les jeunes joueurs aujourd'hui.
C'est caca 2007 après c'est
fort.
Les deux.
Ouais, c'est ça depuis 2008.
J'ai dit pour moi Cristiano Ronaldo et Messi, c'est presque un centre de déformation pour tous les jeunes joueurs aujourd'hui. Parce que tout le monde veut que son fils devienne Messi, devienne Ronaldo.
Moi, je veux un destin à la Messi et Ronaldo.
Voilà. Mais il y en aura peut-être que deux, comme on s'est dit. Ah, il y aura peut-être qu'un seul Pelé. Il y a eu une époque Pelé, puis une époque Maradona, puis une époque Cruyff. Mais ils se sont jamais vraiment entremêlés. C'est vraiment légendes. Et là, aujourd'hui, ces deux jeunes joueurs font croire à tout le monde que c'est encore possible. Mais comme vient de dire Daniel, peut-être qu'il n'y aura plus jamais des joueurs aussi forts qu'eux et qui dominent avec cet état d'esprit un peu égoïste, mais quand même tellement fort qu'ils font progresser leur collectif.
Ça, aujourd'hui, Ronaldo, on leur pardonne une forme d'individualisme aussi.
Ronaldo, à 34 ans, il met un triplé. Mais Ronaldo, à l'âge de Mbappé aujourd'hui, n'oublions pas que Ronaldo, à l'âge de Mbappé aujourd'hui, on en parlait, mais on n'en parle pas autant qu'on parle d'Mbappé.
Parle pas autant que ça, c'est l'époque aussi qui veut ça.
C'était
malheureusement pour
le dribbleur qui parfois était tête à claque et qui a
tellement. Attends,
pendant longtemps, on n'a pas aimé Cristiano Ronaldo.
Oui, bien sûr.
Pendant longtemps.
Pas un peu dur, Serge, avec Mbappé quand même. Sur le 1-2 qui avait le penalty, il est quand même collectif, tu vois.
En revenir au match, c'est vrai qu'offensivement, lui et Griezmann, de toute façon, je trouve qu'ils sont pas dans la meilleure période qui soit. Bon, Griezmann, on le sait au Barça. Même Mbappé qui a, c'est vrai, briller de mille feux sur la première période contre l'OM. Donc ça cache un peu les, on va dire les autres matchs qu'il y a eu autour. Mais je le trouve pas vraiment transcendant. Je trouve trop souvent dans la recherche de l'exploit individuel. Techniquement, moi, il me chagrine parfois. Je trouve qu'il y a beaucoup de, il y a du déchet. Bon, de toute façon, soyons clairs, hein, intrinsèquement, Mbappé, on n'est pas dans la race de Neymar, Messi, ouais, et tout, hein, dans le contact avec
c'est
le ballon.
C'est un joueur de vitesse.
Il faut déjà avoir ça présent à l'esprit. Bon, après, il peut très bien, il aura une carrière extraordinaire avec d'autres qualités. Mais je trouve qu'en ce moment, oui, il est un peu trop dans le je fonce tout seul, j'essaye l'exploit, je suis à fond dans ma vitesse.
Tu sais, c'est le basketteur qui force son shoot, tu sais. Ouais. Il y a un truc comme ça.
De toute façon, Mbappé, il est sûrement fan de Neymar et on l'a beaucoup comparé avec quelqu'un. J'avais pas l'impression que ça lui faisait tant plaisir que ça, mais Mbappé, c'est beaucoup plus Thierry Henry que Neymar. C'est un joueur qui utilise très bien sa vitesse et qui, s'il continue de travailler devant le but, pourrait devenir un vrai tueur et avoir ce geste.
Techniquement, c'était mieux, hein.
Oui, mais bon.
C'est plus propre, hein, Thierry Henry.
Non, mais lui, il est plus fantaisiste, quand même, Mbappé. Tu vois, il a plus des coups du foulard, il tente, comme il a dit,
les notre gars, c'est pas un tout droit, Mbappé, quand même.
Non, c'est quand même un
niveau technique, très au-dessus de la moyenne
moi,
aussi.
Il est plus à placer dans
ses contrôles, dans ses passes.
Moi, je disais juste que dans son rapport avec le ballon, c'est pas Messi, c'est pas Neymar.
Oui, oui, voilà.
Non. Ça, oui. C'est pas Zidane, c'est pas ce genre de rapport-là. Voilà, c'est pas Ronaldinho,
c'est même pas, je te dis, c'est même pas.
S'il avait la vitesse et la technique de Ronaldinho, t'imagines le joueur, c'est un mutant.
Techniquement, c'est pas ce genre-là. Il appartient pas à cette caste-là, mais ça empêchera pas de faire une énorme.
Il a d'autres qualités.
Voilà, il a d'autres qualités. Sauf que les qualités qu'il a, quand il les exploite pas bien, ça devient un joueur un petit peu fonce dedans, individualiste. Il laisse pas la tête.
Est-ce qu'il est vraiment adapté pour jouer? Enfin, adapté, bien sûr qu'il l'est adapté.
C'était quoi sa position ce soir, Kevin, Mbappé?
Mbappé, il a joué à droite, mais il avait le droit de dézonner.
Ah ben, c'est pas qu'il avait le droit de dézonner.
Il a démarré à droite et ensuite il a le droit de dézonner pour venir justement perturber cette défense et faire cet appel rentrant entre le défenseur central et l'arrière latéral vers le but. Bien sûr,
c'était un jeu de dézone autour de Giroud.
Tu sais pourquoi Mbappé a été moins performant aujourd'hui et pourquoi des fois il est moins performant avec le PSG? Parce qu'Mbappé, c'est un joueur qui, comme l'a dit un peu Platini, utilise beaucoup, peut-être un peu trop des fois sa vitesse, mais c'est sa qualité première.
De toute façon, Platini avait raison à 100% dans ce qu'il a dit de Mbappé.
Je suis presque d'accord avec toi, mais Mbappé, face à une équipe qui est en bloc bas comme ça, bien sûr que ses qualités sont moins intéressantes et il peut moins les utiliser. Maintenant, ça reste quand même un joueur technique qui a quand même la qualité dans les petits espaces, sur un appui remise.
On parle de grands joueurs là.
Voilà, bien sûr, mais face à un bloc bas, c'est forcément moins intéressant.
Allez, on poursuit le débrief de l'équipe de France, bien sûr, on est ensemble jusqu'à minuit. Merci Serge.
Merci, et puis juste un big up à Federer. Yes.
Ah oui, Roger, c'est qualifié pour le demi-finale
ce soir. Ouais.
Il a déchiré, j'ai vu.
J'aime bien le langage fleuri de ça. Tiens, Serge, justement, le langage fleuri, écoute, on a fait un comparatif. Dupraz, Serge.
Pour sa gueule. Pour sa gueule. Merci.
Et Dupraz, écoutez.
Okay. Mais tu fermes leur gueule.
C'est le même.
Il y a un truc quand même, c'est pas mal. Merci Serge. Arthur arrive dans un instant. Beaucoup d'appels au 32-16. Beaucoup veulent également. Beaucoup, non. Il y a beaucoup de critiques sur l'équipe de France, plus que d'habitude, je trouve. C'est peut-être le match de trop pour certains, mais il y a aussi beaucoup de défenseurs de Deschamps, ceux adeptes de l'efficacité de la qualification de la première place du groupe, plutôt que les pleurs dans la défaite, malgré le beau jeu. Voilà. On en parle bien sûr, toujours les mêmes thématiques qui reviennent après les matchs de l'équipe de France. L'after est là jusqu'à minuit. Daniel Riolo et Kevin Diaz, à tout de suite.
Pour sa gueule.
RMC jusqu'à minuit.
L'after foot. RMC.
L'after foot.
Nicolas Jamain.
L'after est là jusqu'à minuit, bien sûr, avec Kevin Diaz, avec Daniel Riolo. L'équipe de France est imposée 2-1 face à. Pas la Sildavie, tu te rappelles, c'est la Sildavie. Tintin en Sildavie. La Moldavie. 2-1 pour les Bleus, Racha est ouvert le score pour la Moldavie, Varane 35e, Giroud 119e, on parlera de Olivier Giroud dans un instant bien sûr, avec notamment l'évaluation, on parlera du Portugal également, qui a cartonné ce soir, triplé de Ronaldo, 98 buts.
Bon, il n'était pas blessé alors ce week-end finalement.
Ben non, voilà, tu as la réponse. Tout va bien pour lui, un triplé avec le Portugal. Pas encore qualifié pour l'Euro 2020. Tous les qualifiés, je vous les donne. Belgique pour l'instant. Belgique, Italie, Russie, Pologne, Ukraine, Espagne, Angleterre, France, Turquie.
De toute façon, au final, il y aura tout le monde. Donc,
je pense qu'il y aura tout le monde. Pour une fois, ça fait longtemps qu'il n'y a pas un grand qui ne passe pas la trappe.
Pour revenir à ce qu'on fait les Bleus, on est dans une constante et on le savait. Quand l'équipe de France doit faire le jeu, Et ça, depuis l'Euro 2016, les matchs contre l'Albanie, matchs contre la Roumanie, justement, il y a toujours eu cette difficulté-là. L'équipe de France ne sait pas faire le jeu. Elle est bien plus à l'aise quand elle joue avec ses trois milieux de terrain. Là, Sissoko, Matuidi, Kanté ou... Enfin, tu mets qui tu veux, mais il en faut trois au milieu. Et les trois devant, Mbappé, Griezmann, Giroud, ça joue tout aussi bien. Tu peux croire que quand ils arrivent avec Kanté, Tolisso aujourd'hui et les quatre joueurs offensifs, ça va être un peu plus panache. Mais c'est pas plus panache, parce que de toute façon, t'es pas habitué, t'as jamais bossé ces circuits-là, t'as pas bossé ce jeu-là, c'est pas ta nature. Tu vas pas d'un coup t'improviser équipe qui met le feu. Si t'es dans une belle soirée, que les premiers buts s'enfilent et tout.
Bien sûr,
oui, voilà, ouais. Mais sinon, si le bloc réussit à bien se mettre en place en face et défend, et la première période, je trouve qu'ils ont très bien défendu.
C'est ce que je disais.
Les Moldaves, bon, ben voilà, l'équipe de France, c'est pas sa nature, elle va pas se transformer. L'équipe de France, c'est une équipe de contre, qui est à l'aise quand elle laisse le ballon à l'autre. Et ben voilà, de toute façon, en plus, elle le sait et elle ira à l'Euro comme ça. Donc personne ne doit se plaindre. On ne doit pas se plaindre.
Tiens, Mbappé, vos propos.
Elle est formidable,
vos propos.
C'est Choga Bonito.
Elle est championne
du monde. Vos propos sur Mbappé.
Championne du monde.
Beaucoup fait réagir sur les réseaux, notamment. Tiens, on nous dit quoi ? N'oubliez pas que Kylian Mbappé n'a que 20 ans. Il en avance sur Messi et CR7 au même âge. Malik dit Daniel qui fait maintenant passer Mbappé pour Ayoun Touré. Incroyable, mais vrai.
Oui, voilà. Là
c'est l'excès.
C'est pas obligé de lire les messages de gens.
C'est quoi ? Je l'ai pris, je l'avais pas vu, je viens de le voir.
Débile et qui comprennent rien du tout à ce qu'on dit, quoi, tu vois.
Mbappé lâche son couloir comme à Paris pour marquer, il marche sur les pieds de Giroud et Icardi, alors que je suis persuadé qu'en jouant sur un côté comme Ronaldo, il serait plus efficace. Bon, il était à droite quand même, hein, mais c'est vrai qu'il a pris quelques libertés. Salut Jérémy.
Oui, bonsoir.
Bienvenue bonsoir dans l'after. Daniel et Kevin, t'écoutes, tu voulais parler d'Mbappé et le défendre.
Oui, alors le défendre, c'est on va dire pas trop le mot, c'est on va dire ajouter quelques points sur Mbappé en disant que j'ai pas trouvé qu'il a joué ce soir sur les stats et uniquement pour sa tête. Je vois que c'est un petit jeune de 20 ans qui a envie d'un peu de croquer le ballon. Il rentre dans un univers où c'est déjà un très bon joueur. Mais après, si on revient sur le match, surtout sur la seconde mi-temps, qui était un peu plus efficace, mais la seconde mi-temps, à la 75e minute, on oublie que le 1-2 avec Lucadine permet de ronger le pénalty après par la suite, quoi. Surface. C'est lui qui crée cette occasion et il ne pense pas à sa tête. Par la suite, 5 minutes plus tard, on constate qu'il fait une passe en retrait à Antoine Griezmann par la suite. Et Antoine Griezmann, malheureusement pour lui, la met légèrement à côté. Je vois beaucoup de 1-2 en pleine surface, que ce soit avec Giroud, Griezmann ou même Lucadine ce soir, où je ne vois pas trop Mbappé penser qu'à ses stats et penser sa gueule avec Jérémy, l'auditeur précédent que j'avais entendu, quoi.
Voilà, Jérémy, c'est ça que je voulais te rappeler.
C'est un jeune garçon, quoi. C'est un jeune homme. Il rentre dans un milieu. Bon, c'est un milieu pro. Il faut être pro, ok. Mais c'est un jeune de 20 ans, quoi. Un jeune de 20 ans. Mais... il faut lui laisser
temps. Jérémy, c'est ce qu'on a dit. Jérémy.
D'abord, moi, je me mets dans le camp de ceux qui défendent Mbappé, tu vois. Mais c'est évidemment toujours très compliqué parce que la nuance, le propos, on n'a pas le droit, on comprend jamais rien. Mais en revanche, sur le dernier point, ça, je ne le supporte pas. Et ça, je ne suis pas d'accord avec toi. Je vais t'expliquer pourquoi. L'argument de « il est jeune, il est ceci, il est cela », non. Il n'est pas jeune et ceci et 20 ans, machin, pour avoir un des plus gros salaires du football mondial. Donc, s'il n'est pas jeune pour être un transfert énorme, un salaire énorme, un club énorme, une ambition énorme, et déjà champion du monde, il n'est pas jeune non plus pour prendre les critiques et pour savoir qu'on attend de lui déjà des très grandes choses. Comme on disait tout à l'heure, Cristiano Ronaldo, Messi, au même âge, ce n'était pas les stars que lui est. Donc, alors tu peux me répondre, oui, mais lui n'a rien demandé et tout. Si, quelque part, le joueur demande aussi ça. Il est sans arrêt en demande de responsabilité. Il est sans arrêt en affirmation de soi et en justement à vouloir gommer sa jeunesse. Donc, on a le droit de le critiquer sans arrêt, dire il est jeune, il est jeune, il est jeune. Ah, sauf si tu dis il est jeune et il peut progresser, et évidemment, j'espère, et il n'y a aucune raison qu'il ne progresse pas.
Sur ce point-là,
je trouve que
pour un jeune de 20 ans, il y a une certaine maturité, je trouve.
Moi, je ne suis pas d'accord ni avec toi, ni avec Daniel sur ce coup. Pour moi, il est jeune, il veut des responsabilités, mais il n'est pas mature. Il est pas mature.
Voilà,
le poids des ans, le poids des ans dans le football, on le remplace.
Attends, Jérémy, attends, Jérémy. D'accord, Kevin, mais dans ces cas-là, on a
Jérémy,
attends.
Bien sûr,
on a quand même le droit de le critiquer.
Moi, non, mais à chaque fois que tu le critiques, il faut pas prendre dans la tête. Oui, mais il est jeune, il est jeune, non, il est jeune. Non.
Non, non, non. Moi, je dis
il
pas.
Il assume tout. Il a plus de 100 matchs en professionnel. Il a déjà joué une demi-finale de Ligue des Champions. Il est champion du monde. Bon, mais il est jeune, mais tout le monde oublie qu'il est non, jeune.
Nous, on rappelle juste à Jérémy que.
C'est un génie.
Je rappelle qu'il ne supporte pas qu'on le ramène à sa jeunesse aussi.
Ouais. En plus, lui ne veut surtout pas en parler.
Ouais, pour moi, c'est une erreur d'ailleurs de sa part. Mais, parce que.
C'est autre chose.
Parce que penser qu'à 18 ans, vous êtes mature et à 18 ans, vous voulez pas entendre parler d'âge, pour moi, ça rime à rien. Mais bon. Ça fait partie une nouvelle fois de sa jeunesse. Mais Jérémy, nous, on n'a pas parlé. Moi, dans mes trois points, ou dans ceux de Daniel, on n'a pas parlé d'Mbappé. C'est le président auditeur qui nous en a parlé. Donc, nous, on a réagi à ces propos-là.
Nous, maintenant, on a juste comme tu dit dis, qu'on les a vus comme meilleurs, Griezmann et Mbappé.
Moi, j'ai été le premier à dire qu'il est jeune, et même s'il ne veut pas qu'on le rappelle, pour moi, il est jeune, et souvent, ça se voit. Alors, ça ne lui plaira peut-être pas, mais souvent, ça se voit que Kylian Mbappé n'a que 20 ans, et heureusement. Voilà. C'est tout ce qu'on peut te répondre sur Kylian Mbappé. Maintenant, passons à autre chose.
Oui,
voilà.
Merci, Jérémy. On va pas focaliser sur lui, tu vois. Vraiment.
Merci Jérémy d'avoir pu 32-16.
Griezmann a presque moins fait ce soir. Finalement, des joueurs offensifs, comme l'a dit un auditeur, c'est aussi de lui qu'est venue la passe qui amène le pénalty. À force de dézoner et d'être partout, il a fini par toucher le ballon qu'il fallait et sa remise est bonne. Bon, même si le défenseur moldave le donne, le péno, hein, parce qu'une intervention aussi balourde. Là, franchement, j'ai dit, le type, mais qu'est-ce qu'il veut
faire? Il doit rester debout. Ouais.
Ah, mais non, mais il l'a déglingué, digne, le pauvre.
Il aurait pu lui faire mal en plus.
On est au-delà du pénalty flagrant, quoi.
Écoutez, on reçoit à l'instant la première réaction du sélectionneur moldave. Nouveau sélectionneur moldave, il est arrivé le 30 octobre dernier. Il est très mécontent. Ah, on l'a pas, finalement? Il est très mécontent de l'arbitrage. Parce que ça, on l'a pas évoqué. Bon, les gars, maintenant ça paraît anecdotique, mais quand même, énorme faute de Giroud ou pas? Sur
pour moi, il n'y
a pas de débat là-dessus, les gars.
Pour moi, il y a faute sur le très bon gardien moldave.
Quand il n'y a pas le VAR, moi, je ne parle pas d'arbitrage.
Non, mais moi, je ne parlais pas d'arbitrage, je parlais du très bon gardien moldave qui évolue au Fortuna Sittard, un club que tu connais, je crois, Daniel.
T'as dit quoi? Quoi?
Le très bon gardien moldave qui évolue au Fortuna Sittard, un club que tu connais bien, Daniel.
Ouais. Non, moi, quand il y a la vérité et la justice absolue, je parle de l'arbitrage, mais quand on arbitre de façon libre. Et en interprétant, je ne critique pas. Je laisse l'arbitre se tromper.
Non, mais surtout qu'il s'est trompé. Voilà. Il y a un contact dans la surface. Après, il a voulu être trop gentil, le gardien moldave. On se rappelle d'une époque où les gardiens arrivaient le genou en avant et il fallait mieux pas être sur leur route. Là, pour le coup, il a oublié de se protéger. Ses défenseurs ne l'ont pas protégé non plus. L'arbitre a décidé de ne pas siffler, même si pour moi, en effet, il y avait faute.
Bon, il dit à la mi-temps, j'ai reçu 500 SMS de la part d'amis en Moldavie qui m'ont dit, mais qu'est-ce qui se passe avec l'arbitre? Il y a un problème. Voilà. Ça, c'est la réaction du sélectionneur moldave, bien sûr, qu'on traduira pas parce qu'il a répondu aux questions en anglais. Donc c'est pas drôle finalement. Kevin Diaz, Daniel Riolo, l'after est là jusqu'à minuit. Bien sûr, l'évaluation à venir, on va élargir ça, s'intéresser à d'autres joueurs et bien sûr les autres qualifiés. L'Angleterre avec Julien Laurence qui nous attend et le Portugal, cher à notamment à Kevin Diaz bien sûr. À tout de suite. Et oui, l'after est là jusqu'à minuit, bien sûr. Débrief de l'équipe de France qualifiée pour l'Euro 2020. Le tirage au sort, messieurs, je l'ai pas donné. C'est à Bucarest le 30 novembre prochain. Les Bleus y seront parmi le chapeau 1, chapeau 2, chapeau.
C'est fini, non?
Quoi?
Non, c'est pas fini.
Ça, c'est hyper compliqué.
C'est pas fini.
Là, je te rappelle la règle. Les 6 meilleurs.
On ne devrait pas te lancer. Ça, c'est un domaine réservé, Nico Villas. Il y a que lui qui comprend les ça. Les chapeaux, c'est Gilbert.
Écoute-moi bien.
Mais les explications de genre, c'est lui.
Et les 6 meilleurs premiers chapeaux 1.
Ah, ça, alors ça, c'est Gilbert. Vas-y.
Alors la France est pas hyper bien engagée pour ça, mais c'est encore possible.
Pourquoi?
Sinon.
Qu'est-ce qui fait que t'es dans le chapeau 1?
Parmi les 6 meilleurs premiers des groupes, des 10 groupes.
Et
la France, on va retirer à la France, c'est la règle qui est dans un groupe de 6. C'est 2 victoires contre le dernier. Tu vois, pour revenir à égalité à 5 adversaires, 4 adversaires, des poules de 5. Mmh. Donc tu retires 6 points à l'équipe de France. Mmh. Donc au mieux, elle finira à 19 points. D'accord? Et il y a beaucoup de grandes chances pour que 6 autres nations finissent à au moins 19 points. Mmh. Donc, c'est possible encore. Hein. Éventuellement, la France pourrait également atterrir dans le chapeau 2, avec les 4 autres premiers des 4 autres groupes. Les 2 meilleurs deuxièmes, ce qui peut arriver encore à l'équipe de France, c'est jamais, il faut gagner en Albanie aussi, dans le chapeau 2, et les 6 autres deuxièmes dans le chapeau 3, et les 2 moins bons deuxièmes dans le chapeau 4 avec les 4 vainqueurs des barrages de la Ligue des Nations.
Moi, tu m'as perdu là.
Ah, mais c'est compliqué.
Ah, mais je suis perdu.
Je peux t'en expliquer 10 fois, je pense que.
Non, c'est pas la peine.
Tu
comprends le truc?
Ouais, moi,
a priori, tendance chapeau 1 ou 2 pour l'équipe de France.
En gros, tu peux te retrouver avec 2 premiers dans ton groupe et 1 deuxième.
Mais non.
De premier? Pour ton groupe à l'Euro.
Mais non!
Mais si!
Tu prends une équipe par chapeau pour faire ton groupe à l'Euro. T'auras un quatrième, un troisième, un deuxième, un premier groupe.
Je savais qu'on était bien.
Non, c'est pas possible.
Là, vraiment, là.
C'est une folie, ce truc.
Là, je savais que vous étiez bien, là. Moi, je préfère dire que je comprends pas.
En tout cas, tu peux te retrouver avec deux belles.
J'ai tout compris.
Avec deux belles équipes en plus dans ton groupe. Mais non, pas les deux premiers. Je voulais te retrouver avec deux autres premiers. Si tu finis deuxième.
D'accord. Salut Arthur, merci d'avoir appelé au 32-16. Bienvenue dans l'after avec Kevin Diaz et Daniel Riolo.
Bonsoir à toute l'équipe. Non mais vous inquiétez pas, moi non plus j'ai rien compris.
Non mais si, c'était extrêmement clair, merci. Vas-y Arthur, tu penses quoi de la prestation globale de l'équipe de France ce soir, qui on rappelle est qualifiée et pour l'instant première de son groupe?
Alors ce soir, pas flamboyant, ça c'est sûr. Ah oui, on n'a pas vu une équipe de France qu'on attendait avec un score fleuve. En tout cas moi j'espérais ça. Après voilà, le taf y est, il y a le score, il faut se dire aussi qu'on a une période de l'année où il y a beaucoup de blessures qui se déclarent. Je pense qu'il y a des garçons forcément quand ils rentrent sur le terrain, ils veulent juste faire le taf, pas prendre non plus des risques énormes. Je trouve que tout de même on a été un peu sévère avec notre attaque parce qu'au final jouer contre un bloc à 10 derrière, c'est compliqué. Je mets au défi de beaucoup d'équipes en Europe de jouer contre la Moldavie ce soir.
Bah écoute, juste je te coupe deux secondes, mais le Portugal et l'Angleterre, ils ont relevé ton défi en tout cas.
Oui, alors oui, justement, je m'attendais justement à cette remarque-là, mais eux n'ont pas encaissé de but. C'est-à-dire que la Moldavie a marqué.
Ah oui, non, mais là tu fais du Rudy Garcia.
Derrière,
en fait,
on va mettre un mur, on va mettre une muraille, et là c'est compliqué de manœuvrer. Le seul regret que j'ai ce soir, c'est de ne pas avoir vu une équipe de France tirer de loin. On n'a pas vu une équipe de France, on a forcé. Sur Giroud, que moi j'ai pas trouvé mauvais. Après les jeunes diront ce qu'ils veulent. Moi j'ai trouvé un Griezmann très en mouvement, qui a apporté beaucoup de choses, de déplacements, de combinaisons avec Mbappé, voilà, qui retournait aussi à la compétition sérieusement, Mbappé. Donc des motifs d'espoir malgré ce score moyen qui est 3 points quand même. Voilà, c'est 3 points, c'est 3 points importants. Je pense que s'il y avait
Arthur, match, je peux te poser une question. Arthur, je vais te poser une question parce que j'y ai pensé pendant le match. Quel est le joueur de l'équipe de France qui, pour toi, a une très belle frappe de balle et marque plus de 3 buts par an en dehors des 18 mètres?
Moi, j'aurais dit un garçon comme Pogba, mais qui n'est pas là. Tolisso a cette capacité-là.
Il marque plus de 3 buts par an en dehors de la surface de réparation.
Franchement, je ne serais pas capable de te le dire, mais parmi ceux qui ont une capacité de frapper de loin, qui ont une adresse assez importante. Je pense qu'un garçon comme Griezmann, dès qu'il a la place pour envelopper, pour travailler avec son pied, ça peut passer. Tolisso et Pogba. À part ça, Mbappé n'est pas un finisseur.
Non mais je suis d'accord avec toi. Hein. C'est juste qu'on n'a pas forcément cette arme-là en équipe de France. Voilà, faut se le dire. Après, c'est pas grave. On a d'autres qualités.
Mais là, on a forcé, on a vu des limites peut-être, mais c'est rien d'inquiétant, je trouve. Rien d'inquiétant. Parce
de toute façon, écoute Arthur, face à un bloc regroupé, t'as besoin d'un poste, enfin de deux postes.
Kevin, excuse-moi, je te coupe. Deschamps, conférence de presse en direct.
En sachant ce résultat-là, ça nous offre la possibilité de, à nouveau, de finir premier, mais ça passait par une victoire d'abord contre la Moldavie. Sincèrement, je trouve qu'on a fait une bonne entame, même si on a pris ce but sur une erreur. Mais après, notre première mi-temps a été très compliquée, insuffisante par rapport à ce qu'on est capable de faire. La deuxième est plus conforme, même si on a manqué d'efficacité. Mais au niveau du mouvement, de la vitesse, des enchaînements, on a été capable de faire beaucoup mieux que ce qu'on n'a pas fait en première mi-temps et qui, je le répète, était insuffisant pour moi.
Voilà pour la réaction de Didier Deschamps, le sélectionneur des Bleus, après la victoire, la qualification. Kevin, tu veux dire?
Oui, juste pour finir, rapidement, Didier Deschamps qui parle de l'animation offensive. Donc je disais à Arthur, face à un bloc très regroupé, le Barça de Guardiola, Liverpool, Manchester City, qui tu veux, il y a deux postes qui sont prépondérants, c'est les deux latéraux. Les deux latéraux, c'est eux qui apportent le surnombre. C'est eux qui animent les couloirs aujourd'hui dans le football moderne.
Des latéraux.
Et bien sûr, l'avant-centre. L'avant-centre qui est quand même le point de fixation. Firmino, Agüero. À l'époque, t'avais Samuel Eto'o, t'as eu Messi, t'as eu Henry, t'as eu Zlatan au Barça. Tu vois ce que je veux dire? Donc, nous, à ces trois postes-là, alors, on a deux joueurs qui sont des joueurs de haut niveau, mais qui sont pas dans le top 10 européen. Et on a un avant-centre. C'est pas contre lui. Il est troisième remplaçant à Chelsea. Il a joué 7 minutes en 2 mois. Il joue derrière Tammy Abraham, 19 ans, et Michy Batshuayi. Je veux dire, il y a un moment, t'as t'as juste à certains postes clés, pas la qualité nécessaire, c'est tout. Et pourtant, t'es champion du monde. Donc,
ouais, la qualité, pour moi, Giroud, il a prouvé. C'est un but tous les trois matchs en moyenne. Giroud,
me dis pas un but tous les trois matchs.
Cette force mentale d'aller tirer un péno.
Vas-y. Soyons sérieux. C'est un joueur professionnel. Il peut tirer. Tu devrais plutôt te demander pourquoi Griezmann n'est pas allé le tirer. Il a abandonné les pénaux, Griezmann.
On n'en a pas
parlé encore ce soir. Donc Griezmann a abandonné les pénaux. C'était lui le tireur en bleu. Il a arrêté. Déjà le match d'avant, j'avais dit quand il a fait. On a dit que j'exagérais. Pour moi, dans le match d'avant, il sort du terrain de façon très lente quand il y a faute sur lui, et je pense qu'il fait tout.
Pour
éviter de le tirer, le péno. Et là, ce soir, si quelqu'un a une explication, c'est lui le tireur. Pourquoi il ne tire pas?
Peut-être qu'il veut que son ami Giroud dépasse la tâche.
Je sais qu'il n'est pas dans une bonne période et que les pénaux, il ne les tire plus et qu'il est un peu en cagade en ce moment et qu'il a dit à Giroud, va le tirer. Et qu'un joueur professionnel, quand même, tu joues contre la Moldavie là, de Tintin, là. Tu le tires, ton péno.
Il y a quasiment, Daniel.
Mais il n'y a aucune
pression. Moi, j'y vais le tirer ce soir.
Bien sûr.
Tu la Moldavie, effectivement.
Kevin, Arthur, Richard.
Il y a une certaine pression.
Même à 55 ans.
On va l'abattre. Je prends le pari tous les paris. Que s'il l'avait loupé, on lui serait tombé dessus. On lui aurait dit, ouais, c'est normal.
Bah oui, alors.
Il n'a plus de confiance. Ouais.
Bon, après, Arthur, on sera pas d'accord, c'est pas grave, c'est pour ça qu'on débat, on n'est pas obligé d'être d'accord, mais pour moi, je suis désolé ce soir, que Olivier Giroud tire ce penalty, c'est un minimum. Je pense d'ailleurs que peut-être que Griezmann lui permet de grappiller sur ce fameux.
C'est un kiff de tirer un péno.
Bien sûr, donc.
Quand t'es attaquant, mais c'est un kiff. Tu veux le ballon. Tu veux le ballon.
Non, mais là, déjà pour un numéro 9.
T'es au Stade de France, il est plein. But de la victoire, de la qualif. De la qualif de la première place.
Pourquoi?
Je vais aller plus loin pour un numéro 9, en étant un peu taquin. Le kiff, déjà, c'est de jouer un peu. Ce qui lui est pas arrivé souvent ces dernières semaines. Donc, déjà, il est sur le terrain. Je parle de Giroud. Donc, déjà, il est sur le terrain. Parce qu'Arthur me dit, attends, il a quand même marqué des pénaltys. Attends, il a marqué un pénalty contre l'Islande et contre la Moldavie. Mais normalement, l'équipe de France devrait pas avoir besoin d'un pénalty pour battre l'Islande et la Moldavie. C'est ça qu'il faut qu'on se dise. Peu importe qui le tire. Mandanda, il peut le tirer le pénalty. Il l'aurait mis aussi, C'est pas grave, ça.
Je suis pas sûr de simplifier la chose et un petit peu de donner la chose facile. Je pense que ce soit en équipe de France, en club ou n'importe où, tirer un péno, ça reste un péno. C'est pas du pile ou face ni rien. C'est une question de confiance en soi. C'est une question d'affirmation devant le gardien.
On va pas sélectionner Giroud parce qu'il marque des pénaltys maintenant.
Mais non, mais il est quand même 6 buts sur les 9 derniers matchs. Et c'est pas rien. Alors certes, 2 pénaux.
3 pénaux sur ses 6 derniers buts.
3 pénaux ?
Ouais. Sur ses 6 derniers buts.
3 pénaux. Néanmoins, il est là. Il le met. Et qu'un attaquant qui n'a pas joué justement, qui a joué un quart d'heure.
Moi, honnêtement, le débat.
Le dernier match à Chelsea, il faut le mettre.
Mais bien sûr qu'il faut le mettre, il faut tout mettre. On te met le ballon en retrait, il faut le mettre. Voilà, le gardien, il se déchire, t'as plus qu'à la pousser, il faut la mettre. Mais je pense qu'il faut arrêter avec le débat de Giroud. Voilà.
On
va finir sur le débat de Giroud. De toute façon, Giroud, il peut jouer encore 7 secondes jusqu'à l'Euro. De toute façon, il sera convoqué. Et c'est le droit du sélectionneur qui convoque qui il veut. Il est champion du monde, il a été en finale de l'Euro avec Giroud.
Il a mis un coup de pression à la conférence.
Oui, mais il lui a mis un coup de pression, mais il le prendra quand même parce qu'il va
c'est
le forcer.
Façade ou pas?
Il va le forcer à changer de club, mais ça fait quoi? Giroud, il peut aller jouer demain en D1 roumaine, il va faire 90 minutes tous les week-ends, c'est pas pour ça qu'il sera meilleur en équipe de France. Donc arrêtons.
Oui, enfin, t'es pas obligé de l'envoyer en Roumanie, il peut venir en Ligue 1.
Oui, mais je parlais de la D1 roumaine, c'est peut-être un peu au-dessus.
Ah oui, c'est vrai. J'avais oublié
Cluj. Les gars, vous allez loin là.
Il
n'y a pas que Cluj en Roumanie.
Ça bat le vainqueur de la Coupe de France et le grand tombeur du PSG. Le génie breton.
Tu vois comme tu arranges les choses, Daniel.
Là, je suis taquin. Avec Daniel Riolo, on est un peu taquin. Mais juste pour finir sur Giroud, laisse-moi te dire que.
Facilement éliminé une équipe qui est pas loin des premières places.
C'est pour ça que je te dis que certains clubs de D1 roumaine, c'est meilleur que la Ligue 1. Mais c'est pas grave. C'était pour être taquin. Maintenant, pour finir sur le débat Giroud sera sélectionné parce qu'il est dans les plans du sélectionneur. Le sélectionneur en a le droit. Par contre, arrêtez de me dire que Giroud, il est bon et qu'il faut le sélectionner parce qu'il met 3 pénaltys sur les 6 derniers matchs. Et ensuite, Giroud, il joue avec Frank Lampard, qui je pense est un futur très grand entraîneur. Il est 3e attaquant, il joue en B, s'il y a une équipe B à Chelsea. Avec Sarri, il joue pas. Avec Arsenal, il joue pas. Donc faut arrêter de dire que Giroud, c'est un attaquant qui doit être titulaire en équipe de France. Désolé.
Merci Arthur d'avoir appelé au 32-16. Tiens, je voulais qu'on parle de Griezmann justement, puis c'est le sujet de Ali qui nous appelait également au 32-16. Salut Ali, bienvenue dans l'after.
Oui, bonsoir.
Bon, on avait amorcé le sujet Griezmann qui n'a pas marqué ce soir, qui n'a pas tiré de pénalty. Combien de temps qu'il n'a pas marqué Griezmann en équipe de France? Ça commence à faire, tiens, on va regarder ça. Qui est un petit peu en doute au Barça. T'as pensé quoi de la prestation de Griezmann ce soir?
Bah alors moi, ce soir, Griezmann, je l'ai trouvé catastrophique.
Ah oui,
complètement.
C'est sévère,
parce
pas
que
bon.
Dans sa justesse technique, il n'a pas été au niveau. Dans ses choix, il n'a pas été au niveau. On voit que entre le milieu de terrain et l'attaque, il n'y a aucun lien, alors que lui devrait avoir ce rôle libre offensif, on va dire limite de 9,5-10. Et là, ce soir, Griezmann n'était pas au niveau. Il a mal servi. On a tenté beaucoup de 1-2 avec Mbappé, beaucoup de 1-2 avec Giroud. Même si je les ai vus permuter les trois derrière Giroud, j'ai pas du tout aimé sa prestation à Griezmann.
Daniel.
Non, mais je l'ai dit, la période n'est pas bonne pour lui. Et effectivement, je l'ai trouvé très peu percutant, tranchant. Moi, j'ai toujours considéré que c'était un joueur chapeau 1 des joueurs offensifs en Europe, quand même.
Ouais, bien sûr.
Mais là, je me demande s'il n'est pas. Les événements font qu'il est en régression parce que je crois qu'il a fait une erreur dans le choix du club. Et j'espère qu'il va pas le payer cher longtemps, mais je sais pas si le Barça est un club pour lui, je sais pas si cette année il va totalement s'épanouir. Il a assez de qualité, assez de classe pour y arriver, mais encore faut-il que la position lui convienne vraiment. Quelle répercussion ça va avoir en équipe de France, ça aussi ce sera à suivre, parce que tu as quand même besoin d'un Griezmann si tu veux gagner l'Euro. La Coupe du Monde, c'est quand même le joueur phare, hein. Il n'y a pas photo.
Griezmann à la Coupe du Monde. Il marque des buts, mais il en met trois.
C'est un joueur
clé. Si, dans le jeu, dans l'équipe qui a arrêté l'équipe de France.
Il y a des questions sur la phase de poule. Il n'est pas forcément le plus impactant.
Griezmann, même 8e joueur. C'est un top 3 de la Coupe du Monde. Il est capital.
Et puis, il ne faut pas oublier que c'est une équipe de France qui, quand même, marque souvent sur coup de pied arrêté, notamment à cette Coupe du Monde.
Et il les tire très, très bien. Ton jeu minimaliste, les coups de pied arrêtés sur les corners quand tu vas frapper, les coups francs, même la petite fin. Qu'il a dans le
magnifique
tir contre l'Uruguay. Alors, rien que ça, à partir du moment où ton jeu est aussi pauvre, Griezmann il l'a fait à merveille. Donc ça devient le joueur capital qui te met les pénaux parce qu'il y en a eu pour les bleus.
Alors là, on a parlé beaucoup du négatif.
Excuse-moi, à l'instant, la réaction d'Antoine Griezmann. Je te donne la parole après. Antoine Griezmann, juste après la victoire de l'équipe de France.
Ouais, on était pas dedans, voilà. Surtout dans les derniers gestes, on n'a pas été bon, mais voilà. Après, on a su prendre ces trois points qui est le plus important, mais ouais, il y a des soirées comme ça où tu peux tout essayer, tout tenter, et c'est pas, tu arriveras pas, mais voilà. Maintenant, on a 2-3 jours pour récupérer, essayer d'oublier ce match offensivement et essayer de gagner dimanche. C'est comme ça. Il y a des matchs où on n'est pas dedans, on passe à travers, comme un peu l'Australie en Coupe du Monde, ça arrive.
Le penalty laissé à Olivier, c'est y a une petite histoire.
Non, il a pris, il se sentait en confiance, donc il l'a pris et puis il l'a mis au fond.
Maintenant, l'objectif, c'est de bien finir le travail, c'est de terminer premier du groupe.
Ouais, c'est ça le plus important. La qualif est là. Maintenant, on veut aller prendre la première place. Donc, voilà, bien récupérer, bien préparer ce match et essayer d'avoir la première place.
Voilà, il dramatise. Hein. Ça arrive, des matchs ratés.
Il a raison,
il a comparé au match contre l'Australie, effectivement, en Coupe du Monde. Tiens, précision ça, également.
C'est un vrai match raté.
Ouais. Deschamps a dit c'était à Antoine de tirer le pénalty. Confirmation qu'il y a eu changement de. Mais ils font comme ils le sentent, mais voilà. Et donc Griezmann n'a peut-être pas senti. Il a donné.
Griezmann ne le sent pas.
Ouais, mais c'est aussi ça,
il ne le sent pas.
C'est très étonnant.
Je pense que Griezmann, il y a un an, il n'y avait pas de débat. Il prenait le ballon, il tirait.
Et la preuve qu'en ce moment, il ne sent pas beaucoup de choses.
C'est l'intelligence. C'est tout simplement.
Oui, tu peux prendre le côté positif, c'est-à-dire que je ne m'obstine pas.
Non, il y a deux choses. Là, je suis un leader dans cette équipe. J'ai pas besoin de marquer un penalty contre la Moldavie. Par contre, j'ai un coéquipier qui en a fort besoin parce que il aimerait revenir sur Platini avec ce fameux record.
Il est à deux buts là.
Et voilà, il est à deux buts et aussi surtout, il est dans une situation encore plus délicate que moi en club et ça pourrait lui faire du bien de marquer ce but. Donc Griezmann, je pense qu'il y pense. Moi, je me sens pas très bien. C'est vrai que peut-être en club, rumeur par rumeur, en tout cas. Je suis pas au mieux de ma forme, comme a dit Daniel. Je le laisse. Ça aussi, c'est de l'intelligence. Et ça aussi, un footballeur de haut niveau, il en a besoin.
Allez, reste avec nous, parce que tu as été patient au 32-16. On va passer à l'évaluation de ce match de l'équipe de France. Messieurs, on va commencer par.
Ça va être dur, l'évaluation.
Alors, on y va. Hein,
moi, j'ai un taulier.
Alors vas-y, taulier, Kevin.
On va pas forcément parler du point positif ce soir parce que le match a été difficile. Mais moi, je trouve que N'Golo Kanté, Oublions pas qu'il revient de blessure. C'est un joueur qui a fait son match. Un joueur qui a pas beaucoup joué ces dernières semaines non plus à Chelsea à cause de blessures. Bon, et j'allais dire bon et un autre j'allais
Varane
dire aussi
un bon match après Varane. Le reste bon bah l'anglais il, malheureusement il se déchire sérieux sur le but des Moldaves. Après c'est du moyen un peu partout.
J'ai un Casper.
C'est du moyen.
Mais est-ce qu'ils ont Casper?
Casper.
Mandanda. Parce que sur le but
Tu l'appelles comment? Mandanda.
Mandanda.
Peut-être l'accent bataf, peut-être après l'accent de Châtenay de Jérôme, on a l'accent bataf de Kevin Diaz.
Ouais, je l'ai trouvé donc Mandanda, je l'ai trouvé.
Tu connaissais l'accent du 9-2?
Non, moi c'est 9-4, moi. Je connais pas l'accent du 9-2.
L'accent du 9-2, c'est 9-4? Celui qui te fait passer de Saint-Gall à de Saint-Gilles à Saint-Gall.
Ah, ok.
Saint-Gall. Vas-y, ton Casper.
Bah, je disais Mandanda.
Oui, parce qu'il a rien à faire finalement.
Bah, si, il avait un art à faire, il l'a pas fait.
Oui, d'ailleurs, on a pas évoqué quand même. Bon, ça va, on va pas non plus taper sur Clément Lenglet. Non, mais ça, il est moche hein, quand même. Jongle de la tête, double jongle de la tête pour offrir un but. Je sais pas, c'est un peu compliqué aussi, on verra. Hein. Omtiti est pas en forme, Lenglet.
Bon, pour le reste, c'est anecdotique.
Boulette.
Hein. Ouais. Boulette, ça arrive.
Boulette.
Un boulet. Il y a un boulet ce soir ou pas?
Bah, à cause de cette boulette, l'anglais il fait un peu boulet avec cette boulette. Ouais, on va bien ensemble.
Un cador. Ali, t'as un cador ou pas?
Un cador ce soir.
Ce soir, il y en a pas.
J'avais N'Golo Kanté.
Ouais, mais c'est le mot est trop fort pour la prestation d'ensemble. Pour la prestation d'ensemble des Bleus, il peut pas y avoir de cador.
On l'a pas vu depuis quelques temps dans le milieu de terrain. Et là, on sent qu'il est revenu. Le milieu de terrain, les récupérations de balles sont beaucoup plus rapides. Bah après, peut-être qu'il faudra un deuxième un peu plus défensif à ce côté, mais voilà.
Très bien. Merci Ali d'avoir appelé au 32-16. Voilà pour l'évaluation de la victoire de l'équipe de France. Bonne soirée à toi, tu reviens quand tu veux. Dans l'after, dans un instant, on parle du Portugal. Vainqueur, 7-0. Triplé de Ronaldo, notamment 7-0, c'est l'Angleterre. Justement, Julien Laurent sera avec nous avec un triplé de Harry Kane ce soir. L'homme en forme, côté anglais. Et également, on évoquera la CAN. L'Algérie a gagné 5-0, décidément. 7-6, 5-0. Bien sûr, pour les qualifs de la Coupe d'Afrique des Nations. A tout de suite, à l'after, Daniel Riolo, Kevin Diaz. On est ensemble jusqu'à minuit.
RMC. L'after foot. Nicolas Jamain.
Et oui, l'after est là jusqu'à minuit avec Kevin Diaz, avec Daniel Riolo également. On a parlé de l'équipe de France, beaucoup de réactions. Tiens, il y a Tourelle. Bon, bref, il s'appelle Tourelle, le PSG. Il dit le match de l'équipe de France est super ce soir. Je me suis fait une putain de sieste de 1h15, merci les Bleus. Voilà, ça réagit comme ça, évidemment.
Daniel a dit on n'a pas le droit de se plaindre.
Il y a de plus en plus, non mais sérieusement, et Daniel, pour avoir fait 2-3 after à post-équipe de France, je trouve qu'il y a de plus en plus, effectivement, de remarques critiques sur les réseaux.
Je comprends pas.
De plus en plus.
Est-ce qu'on deviendrait enfin un grand pays de foot où on peut critiquer une victoire?
Ouais, là, un peu loin. Moi, j'ai pas critiqué.
C'est vrai.
On n'a pas évoqué, je voulais quand même qu'on parle de Pavard aussi très vite fait avant d'évoquer le Portugal.
Un match comme ça, ça te permet en même temps, sans rien rater, de pouvoir regarder Djokovic Federer. C'est quand même l'événement sportif de la soirée.
Tu veux dire que tu parles sans avoir vu le match, Daniel?
Non,
t'avais un œil.
Je t'ai dit que grande télé le match et iPad sur le match de tennis.
C'était pas un grand match non plus,
alors,
Daniel.
Alors, l'affiche, c'est vrai.
Oui, c'est décevant quand même.
Je m'attendais à plus d'adversité. Et effectivement, la façon dont Federer a gagné est assez étonnante. Mais néanmoins, quand même, il a livré une magnifique prestation. Et je t'assure qu'au niveau du spectacle, c'était beaucoup mieux que le match de foot. Vraiment beaucoup mieux.
Messieurs, il y a plusieurs messages et des questions qu'on vous pose directement sur Direct Studio sur Benjamin Pavard. Ça, avant qu'on parle du Portugal également. Cible des critiques. Pour le coup, belle interview dans le journal de l'équipe aujourd'hui où lui-même dit que son but contre l'Argentine lui porte préjudice aujourd'hui. Il aimerait qu'on arrête de lui en parler. Qu'il n'est pas que le buteur contre l'Argentine et qu'il joue plus que certains le disent. Vous avez pensé quoi de son match ce soir, Benjamin Pavard?
Est-ce qu'il a été réellement sollicité au point qu'on puisse voir comment il a joué ou pas?
Il a touché un max de ballon.
Il y a quelque chose qu'il faut dire avec Benjamin Pavard. Je pense que c'est vraiment un joueur qui fait partie de cette nouvelle génération, mais qui a un très bon état d'esprit. C'est-à-dire que voilà, comme on dit à l'ancienne, c'est un guerrier, c'est un défenseur, un mec qui donne tout sur le terrain. Mais malheureusement, je pense aussi qu'on peut le dire
en
humblement.
Tout n'est pas non plus.
Voilà. Après, c'est un joueur qui est limité. Alors oui, aujourd'hui, il est au Bayern parce qu'il est international français, parce qu'il a fait une belle Coupe du Monde, parce qu'il a mis un joli but. Alors il en a marre qu'on lui rappelle. Je peux le comprendre. Maintenant, Benjamin Pavard, excuse-moi, il joue au Bayern Munich. C'est pas Willy Sagnol. C'est pas Lizarazu. Et c'est pas parce qu'il joue aujourd'hui en équipe de France, c'est il joue en équipe de France parce qu'il y a pas de concurrence à ce poste d'arrière droit, parce que je suis pas sûr qu'il serait convoqué pour être défenseur central en équipe de France. Voilà, donc Benjamin Pavard, malheureusement ou heureusement pour lui, il est dans ce groupe, il fait partie des soldats de Didier Deschamps, il donne toujours tout, comme on dit, il mouille le maillot. Par contre, footballistiquement, c'est pas un joueur de classe mondiale. Voilà, c'est tout. Je pense que c'est pas offense de dire ça, je pense que c'est juste la vérité.
Voilà, donc pour, voilà pour l'équipe de France, on en reste là, messieurs. Tiens, également cette stat, hein, depuis le 11 novembre 2016, c'est la première fois que Deschamps ne fait entrer qu'un joueur dans un match.
Oui,
ouais, c'est un seul changement, c'est Thomas Lemar.
Changement très tardif que
je. On aurait aimé voir Fekir, on aurait même
aimé voir. Trois ans, hein.
Mais je ne m'explique pas trop.
Quelle
est la raison qui a pu le pousser à ça, Kevin, selon toi?
Parce qu'il y a un match dimanche important.
Je pense qu'il était un peu agacé, qu'il voulait que les joueurs.
Justement, il aurait fait un remplacement.
Je pense qu'il voulait pas, pardon, peut-être sortir Giroud parce qu'on l'a assez dit, il a pas assez de temps de jeu, donc il voulait le laisser. Mais moi, j'aurais aimé voir un Ben Yedder, j'aurais aimé voir un Fekir, j'aurais aimé voir un joueur qu'on n'a pas forcément à l'idée. Un joueur comme Guendouzi. Qui au milieu de terrain pour moi
aurait...
Mais si au milieu de terrain.
Pourquoi sur un dernier quart d'heure Guendouzi, qu'est-ce qu'il va apporter de...
Bah justement aussi
c'est un joueur. Tu vas entrer Ben Yedder.
On peut ne pas être d'accord déjà. Moi j'aurais aimé voir Guendouzi. Monsieur Riolo, j'aurais aimé voir Guendouzi.
Je sais même pas ce qu'il fait là dans le groupe ce mec. Donc
en tout cas il est là. C'est un joueur qui a de la percussion, qui peut amener, qui a cette grinta.
Tu vas pas me défendre.
C'est pourquoi, parce qu'il commande pas direct le week-end.
Comme toi, t'as un type de ta qualité.
Un type de ma qualité.
Un type de ton analyse.
Laisse sa chance au produit, Riolo.
Titulaire.
J'avoue, je bois tes paroles, mais là, non,
par
je comprends
pitié.
Pas. Guendouzi, c'est ton kiff en fait. C'est
pour non, mais moi, je l'ai beaucoup critiqué souvent quand j'ai vu jouer à Arsenal. Il a pas toujours été bon, mais je trouve qu'aujourd'hui dans cette équipe de France, par sa qualité justement, c'est le seul qui est dans le profil un peu box to box. Il aurait pu apporter au milieu de terrain.
Oh là là,
je trouve assez horizontal Guendouzi.
Moi, je trouve qu'il peut apporter. Il peut apporter, j'ai pas dit que c'était le sauveur de l'équipe de France.
Il peut apporter les ballons à l'entraînement, les plots.
Tu t'es arrêté sur Guendouzi, j'ai dit aussi que j'aurais aimé voir un Fekir.
Je peux pas en parler, moi.
Un Fekir qui est bon avec le Betis ou un Ben Yedder qui est bon avec Monaco, j'aurais aimé les voir aussi.
Voilà pour l'équipe de France. J'accueille Julien Laurence. Salut Julien.
Salut Nico, salut à
tous. Salut Julien.
Comment ça va?
T'aurais pas aimé voir Guendouzi?
Très bien. J'aurais bien aimé voir Guendouzi. Je suis d'accord avec toi.
Je suis d'accord avec Laurence.
Non, mais c'est vrai. Et je veux plus entendre qu'il joue horizontalement Guendouzi. Hein.
Non, c'est un joueur qui va vers l'avant.
Arrête, Julien.
Bien sûr.
Arrêtez de relancer.
Ah, si,
là.
Après.
Allez, stop. C'est pas un débat Guendouzi.
Chose, tu vas pas,
on en parlera quand il sera
ce joueur moyen.
Tiens, 7-0.
Parlons d'un vrai match.
7-0 ce soir contre le Monténégro. Triplé de Kane, Rashford, Oxlade-Chamberlain. Tiens, on va démarrer par le premier but de Tammy Abraham avant de développer globalement sur l'équipe d'Angleterre. Abraham, quelle saison surtout? Quel début de saison de folie?
Voilà,
son premier en sélection.
Le cauchemar de Giroud.
Parle-moi d'Abraham, ouais.
Oui, bah oui, je te parle d'Abraham, bien sûr,
non,
effectivement.
Je parle avec Kevin,
continue.
Pardon, Julien, le prends
pas. Pardon, excuse-moi. Non, mais moi,
Julien,
je te parle de tout ce que tu veux. Non, pas du tout, mais c'était.
Julien, calme-toi, c'est bon. Redescends.
Julien, parle-nous de Guendouzi, Julien.
Redescends, Julien, c'est bon. C'est que du foot.
Julien, qu'est-ce que ça va pas?
C'est quoi le truc là, en fait? On dirait Fred Hermel, là. Oh. Faut redescendre. Allez, vas-y, Julien.
Ouais, vas-y, on te coupe plus, pardon.
Donc. Le bon Tammy Abraham, effectivement, qui continue sur sa lancée de Première Ligue et de Ligue des Champions avec Chelsea. Premier but pour l'Angleterre en fin de match, un vrai but de buteur en plus où il se jette sur un centre de Sancho. Son appel contre appel est très efficace. C'est vraiment un joueur super intéressant qui avait fait ses preuves en seconde division anglaise avec Bristol, avec Aston Villa et dont on se posait la question s'il était capable de faire la même chose en Première Ligue avec Chelsea et en Ligue des Champions aussi. Et ben pour l'instant il est en train de démontrer tout le bien que pensait de lui et son club et Frank Lampard et les supporters. Mais après c'est vrai que de le transposer aussi en équipe nationale, même contre une équipe aussi faible que le Monténégro, parce que le Monténégro même dans le match de l'after, je pense qu'on leur met une fessée.
Ouais, oui, mais d'accord, mais la Moldavie, tu mets pas une fessée à Moldavie?
La Moldavie, on leur met deux fessées.
Bah la Moldavie
Julien, la Moldavie et le Monténégro, si je suis l'entraîneur de cette équipe de l'after.
Oui, bien sûr. Bien sûr. D'ailleurs c'est avec un problème, si l'entraîneur n'est pas au niveau.
Bon, comment on vit là?
Kevin est toi titulaire.
Rappelons principal, Julien, l'Angleterre est qualifiée pour l'Euro 2020.
L'Angleterre est qualifiée, première de son groupe. Les premières de son groupe, ah oui. Pas du tout. Mais alors, ça les intéresse pas du tout. D'ailleurs, Wembley s'est vidé très très tôt ce soir. Mais c'est vrai que il fallait une bonne performance après ce qui s'était passé cette semaine, l'embrouille entre Gomez et Sterling, un petit peu le côté un petit peu négatif de toute la semaine de préparation. On a vu encore un triplé d'Harry Kane, son troisième en sélection, ça fait 31 buts en 44 sélections pour Harry Kane, qui est en train vraiment de battre tous les records. C'était le 1000e match d'ailleurs dans l'histoire du football anglais, de l'équipe d'Angleterre. C'est la seule, c'est le seul pays au monde à atteindre ce nombre de matchs, vu que c'est eux qui ont inventé le football, c'est un petit peu normal, mais c'est un record et sincèrement, c'était une belle soirée dans cette optique-là. Maintenant, tu peux pas en tirer trop de leçons non plus, vu la faiblesse de l'opposition.
Ouais, mais quand même, hein, Julien, tu viens quand même de citer Harry Kane à la pointe de l'équipe des Three Lions de l'Angleterre. Tu viens de citer Tammy Abraham. Tu as dit que Sterling n'a pas joué. Quand on dit qu'on a une des plus belles générations mondiales, faut pas oublier quand même qu'il y a d'autres pays qui sont aussi très bien armés.
Tu as raison, c'est la plus jeune équipe d'Angleterre depuis 1964, je crois, celle qui était alignée aujourd'hui.
Franchement,
avec Jadon Sancho, avec Mount, avec Rashford qui a été très bon aussi. Il y a Madison sur le banc, tu as raison. Il y a toute la génération, tu sais, qui était championne du monde des moins de 17 ans. Il y a 4 ans de ça, avec Phil Foden, avec Sancho, bien sûr. Et c'est vrai qu'ils ont pas mal, ils ont beaucoup de qualités.
Ah, on va se mettre à rêver à l'Euro. Hein,
et n'oublions pas quand même que l'Angleterre a été demi-finaliste de la Coupe du Monde, si je dis pas bêtise.
Même si.
Tu as raison. Bon, et aussi de la ligne,
il y a
aussi
tiré par
oui exactement ça ouais, bah nous aussi mais, hein
mais, il y a non, un contre la Colombie je crois il y a un quart Angleterre Colombie je crois
non mais tu as raison de dire qu'après tout la France aussi ça a parfois avancé péniblement mais si on s'en tient juste à la réflexion sur l'Angleterre, néanmoins, même de cette façon-là, aller en demi-finale, forcément ça a redonné confiance au pays, aux joueurs, à la sélection qui croit à nouveau en elle. Et avec tous ces jeunes joueurs qui arrivent et qui sont, je pense, ambitieux, et même le fait de jouer en Première Ligue, ça te fait grandir plus vite. Moi, je pense que c'est une équipe qui peut te placer parmi les outsiders à l'Euro, moi.
Moi, même parmi les favoris.
Tu as raison. Favoris direct, ça, tu dis pas outsider.
Favoris ? Non, mais les gars, tiens, parenthèse.
Je vais dire
pour
pourquoi.
Là, on aura tout le monde à l'Euro. Trois favoris.
Pour moi, les favoris, c'est la France. L'Angleterre. Et s'ils gardent ce même niveau-là, peut-être une équipe comme les Pays-Bas.
Daniel,
franchement, j'en sais rien.
C'est dur là.
C'est compliqué parce que il y a beaucoup de très belles équipes. Quand tu vas voir le Portugal en compétition, ça va être costaud. Les Belges seront là. L'Espagne, tu peux pas les écarter.
L'Italie est bien.
L'Italie, je les vois.
L'Italie revient bien.
Outsider. Ouais. L'Allemagne, évidemment. Les Pays-Bas. Il va y avoir beaucoup de nations.
Ça sera dense. Hein,
tu sais l'avantage, Julien. L'avantage des Anglais aussi, c'est qu'il y a les deux demi-finales à Wembley, la finale à Wembley, et qu'ils sont aussi assurés de jouer leur match de poule à Wembley. Ce qui sera pas forcément le cas. Les Français peuvent se retrouver à Bakou, par exemple, ou aux quatre coins de l'Europe. Eux, ils sont assurés déjà de jouer le match de poule à Wembley, et après, s'ils vont loin, d'avoir demi-finale et finale à domicile. Ce qui, normalement, est quand même un sacré avantage.
Oui, ce sera bien pour eux.
Messieurs, question quiz. Millième match pour l'équipe d'Angleterre. Quel international anglais a joué le plus de matchs?
Comment ça?
Record de sélection sur les 1000
pour les Anglais.
Ouais.
Ça doit être toujours. C'est pas toujours Peter Shilton.
Mais si, là, c'est trop facile.
Hein?
125 sélections, ouais. Shilton, ouais. Effectivement.
Bravo. Et ouais, dans les joueurs de champ.
Pas né aussi.
Ah, joueurs de champ, j'ai pas noté là.
Dans les joueurs de champ.
Attends, on va trouver.
De champ, on doit.
C'est combien? Tu as le nombre de sélections ou pas, Julien?
Pas être loin, non?
Ouais. J'ai.
C'est combien le nombre de sélections
pour les joueurs de champ? On n'est pas Rio Ferdinand. Doit pas être loin, non?
Excuse-moi, si tu veux que. Tu veux que je dise la réponse ou que le numéro du
non,
et tu trouves le nom et moi je te donne le
non vas-y donne
c'est un attaquant apparemment
donc c'est 120 c'est 120
c'est un attaquant
120,
le
Shearer. Après Shilton c'est 120
Shearer.
Non
vas-y dis-le alors
retraité depuis peu
Wayne Rooney avec 120 sélections et 53 buts c'est le recordman des buteurs pour l'instant
c'est lui c'est Rooney bien sûr.
Et Beckham avec 115 et après Gerrard 114
Beckham 115
le quatuor
115 sélections
ouais.
Julien, triplé d'Harry Kane également. Fort.
C'est bien. Fort avec l'Angleterre et pas très fort et avec Tottenham. C'est un petit peu le problème des dernières semaines. Ça va lui faire du bien d'ailleurs, ce triplé. Il a récupéré le ballon. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est son troisième en sélection. Déjà, ça fait 31 buts en 44 sélections. C'est beau quand même, son ratio match joué, but marqué. Mais c'est vrai que sa forme en club contraste énormément avec sa forme en sélection.
Merci Julien.
Merci les gars.
Excellente soirée à toi et bienvenue à l'Euro. Hein. Tu vois, tu vas jouer l'Euro aussi évidemment. L'été prochain, bien sûr.
Football is coming home, Julien.
Voilà. Oh, ben prochain Euro, on a
tout le monde. Hein.
De dames,
on a Simonet,
hein.
On a Fred
monde,
évidemment.
On n'avait pas Simonet. Hein. Ah, on a refusé la Croatie. Le pauvre sera allé jusqu'en finale.
On va avoir Kevin Diaz aussi logiquement pour les Pays-Bas.
J'espère.
Et pour le Portugal aussi.
Et ouais. Ouais.
Victoire du Portugal.
Et bah, ils vont y aller là avec le truc des repêchés.
Oui, ils sont dans les 4 vainqueurs des barrages.
Bon, t'as pas encore compris la Ligue
non,
des Nations.
J'ai rien compris la Ligue des Nations.
Daniel, la Ligue des Nations.
Mais je pense
quoi
que les Pays-Bas, ils y seront quand même.
30
je
novembre, pense. Tirage au sort à Bucarest. On fera le point à ce moment-là.
Pourquoi Bucarest?
Parce que c'est l'euro de l'Europe là. Voilà, ah, on est éparpillé. Okay.
Très bien, très bien.
Grand pays de foot, la Roumanie.
Ah, ça oui.
Et oui, immense pays de foot.
Avec Cluj.
Pas que Cluj. D'ailleurs, je regardais, vous me parlez du championnat roumain. Citez-moi 5 clubs roumains, les gars.
Oh mais c'est pas les quiz. Hein.
C'était où? Vas-y, vas-y.
Craiova, Cluj, Astra, Rapid Bucarest,
Petrolul, voilà. Vitorolul.
Voilà, on les a tous, fort. C'est bon. Ouais. On a tout là.
Ouais. Merci. J'ai des collègues qui ont joué en Roumanie.
Football Club Potosani aussi. Le Portugal s'est imposé 6-0.
Ah, Grand.
Quoi?
Grand.
Contre la Lituanie. Ronaldo en a mis 4 au match aller.
Ouais.
Il en a mis 3 ce soir.
Oh, mais là, il
a mis 7 buts à la Lituanie.
Hugo Batav.
C'est vrai.
Sur un match Portugal-Pays-Bas, ton cœur est portugais.
Oui, bien sûr.
Évidemment. 7 buts contre la Lituanie, un triplé ce soir, 96, 97, 98e but pour lui. Tout le monde rêvait descendre et ce soir, un quatuplé, pourquoi pas. L'info, c'est également que finalement, physiquement, il est bien. On pouvait en douter après sa sortie du terrain avec la Juve et ce qu'avait dit Sarri, qui estimait qu'il était légèrement blessé. 3 buts.
Avec quel 11 ils ont joué, t'as pu regarder?
Ouais, j'ai regardé un peu. On avait un écran ici. Le 11 de tête. Je sais qu'il y a eu une association très intéressante pour les Portugais avec.
C'est bon, je l'ai. Donc
là,
c'est Ruben Dias, José Font en charnière, Pizzi, Neves, Fernandez, Ronaldo, Paciencia et Bernardo Silva.
Voilà. Bah moi, j'ai vraiment bien aimé cette animation offensive.
C'est un milieu de terrain qui a du ballon.
Il y a du football, hein, parce que Ruben Neves avec Wolverhampton, on le suit sur RMC Sport aussi, c'est magnifique. Mmh. Bruno Fernandes, on le suit aussi sur RMC Sport avec le Sporting. C'est vraiment un joueur qui devrait signer dans un des plus grands clubs européens là, à la trêve. Pizzi avec le Benfica, c'est pas mal. Et puis bon, Bernardo Silva. Et un Paciencia, Gonzalo Paciencia, qui a été formé à Porto, mais qui joue à Francfort.
Il fait un bon début de saison.
Il fait un très bon début de saison. On l'avait vu très bon, notamment contre Strasbourg.
Toujours dans le groupe.
Moutinho est toujours dans le
groupe. 73e minute de jeu.
Moutinho, il a été très bon ce week-end face à Aston Villa avec Wolverhampton.
C'est ce que j'allais dire. Est-ce que tu peux nous dire comment il est en Angleterre? Il est encore. Tout le monde le donnait pour.
Quel âge a Moutinho maintenant?
La dernière année.
Tu sais qu'elle est en Angleterre.
Il est encore là.
Elle est en Angleterre, Daniel. À Moutinho, ça lui a redonné vraiment une deuxième vie parce que là-bas, il faut mettre de l'intensité. Exactement. Tu peux pas jouer en marchant. Et donc, ça l'a forcé vraiment à. Mais franchement.
Si tu regardes sur le banc et tout, il y a des bons. Franchement, c'est magnifique. C'est une belle sélection.
Ricardo Pereira, enfin titulaire avec le Portugal. Franchement, c'est vraiment sympa de le voir là. Et vraiment, Paciencia et Ronaldo magnifique, qui provoque le pénalty, le marque. Derrière, il marque un super but, balle en profondeur. Je conseille à tout le monde d'aller voir ce plat du pied en une touche. Je pense qu'il a voulu répondre à son entraîneur Sarri et le mettre un peu en difficulté pour la prochaine conférence de presse de la Juve.
Il a réagi d'ailleurs, Fernando Santos, ce soir. Il a précisé, je savais que Cristiano était en mesure de jouer. Son match a mis fin au doute sur sa condition physique chez ceux qui en doutaient et qui en avaient. Personnellement, je n'avais aucun doute et je l'avais dit. Effectivement. Quand il m'a triplé comme ça, c'est une banalité finalement. Comment réagit encore?
Au Portugal, on réagit, c'est simple. Moi, j'ai de la famille qui a fait les 2000 kilomètres pour aller voir.
Parce que Dieu a parlé.
Non, il avait l'air d'être vraiment content de marquer ce troisième but. Il va ramener un nouveau ballon à la maison. Alors lui, c'est plus. J'ai vu que Haaland, le jeune Norvégien là de Red Bull.
On a pas encore assez parlé dans l'after de ce joueur-là, qui est en train de tout casser.
Magnifique ce joueur.
Révélation depuis le début de la campagne.
Mais Ronaldo, lui, c'est. Et plus...
Apparemment, le Bayern est chaud dessus. Hein. C'est une
Ronaldo,
des priorités.
Où est-ce qu'il émet tous ces ballons des triplés, lui et Messi? Ils en font quoi? Ils ont un garage.
Je crois qu'il a une maison un peu plus grande que la tienne.
Ouais, mais ils ont un box, ils ont un truc. Il y a quelque chose.
Tu sais pas. Hein. Dans le 94.
Je crois pas.
Il était peut-être, non, je sais pas. Voilà pour le Portugal. Alors attention, Portugal qui devra se qualifier dimanche. Hein,
Luxembourg.
Au Luxembourg. On a galéré, nous, Luxembourg.
Il y a beaucoup de Portugais au Luxembourg. Il va y avoir une bonne.
Il y en a partout, ils sont partout. Ouais. En France, au Luxembourg.
Ça s'appelait en Belgique également. Contre le Luxembourg, il fait le match de sa vie.
Chano? Non.
Non, et qui a
pas Pereira,
Lyon,
il s'appelait.
Et après, il est allé à Lyon et puis il a rien fait.
Si, bien sûr.
Pereira, non? Je crois que c'était
le mec au milieu de terrain là qui avait fait un récital contre la France et qui ensuite va à Lyon.
Je sais plus.
Et qui est d'origine portugaise.
Ouais.
Si, t'as raison.
Oh là je crois là, que c'est Pereira, mais je suis pas sûr.
Alors, il a un nom composé.
J'avais passé trois jours avec eux que dans la sélection avant le match Luxembourg-France. Et effectivement, il y a Gerson Rodriguez.
Ah, c'était pas ça.
Pas ça? Gerson Rodriguez, international luxembourgeois. Et Christopher Martins Pereira.
Ah, c'est lui.
C'est lui.
C'est lui.
De Lyon, exactement.
Vous l'avez alors?
C'est lui.
Il y a aussi Olivier Thiel qui joue là-bas. Voilà quoi. Messieurs, rapidement, je rappelle que vous pouvez gagner la chance de venir ici sur une soirée Ligue des Champions avec notre partenaire Chronopost le mercredi 27 novembre dans les studios de RMC. Vous pouvez vivre en plateau les soirées, les grandes soirées Champions Zone Ligue des Champions avec Daniel notamment, Kevin aussi, autour de Jean-Baptiste Boursier, de Christophe Dugarry, Jean-Louis Tour également. Ce sera pour les deux matchs, hein, Zenit Lyon et Lille Ajax. C'est extrêmement simple. Vous envoyez top par SMS au 732-16, top par SMS au 732-16.
Découvrez les coulisses des studios lors de votre soirée foot avec Chronopost, livreur d'émotions.
Merci Kevin.
Merci à vous.
Quand tu veux, Daniel, merci également. Pas demain.
Non.
À dimanche soir. Rapidement, l'Algérie a battu la Zambie 5-0, première journée de la qualification de la CAF Côte d'Afrique 2021. Excellente soirée à tous.
RMC jusqu'à minuit.
L'After Foot.
Starting a business means you had to be a businessman. A Tom, a Dick, a Harry, or not. If women started and grew businesses at the same rate as men, they would contribute an extra £250 billion to the UK economy. That's why at NatWest, our new funding platform, Back Her Business, is helping more women to get started. So you can get started too, whatever your name happens to be. Search NatWest Rethinking Business. NatWest. We are what we do.
UK residents with new UK projects can apply. Specific criteria apply. 2019 Rose Review claim equal to 4 years natural GVA growth.